Chapitre 10. La relation entre Clémence et Sylvestre était restée fragilisée après l'épisode de l'altercation survenue dans le parc. Lorsque la jeune femme était revenue de sa semaine à Lens-à-la-Joie en juillet, son amoureux lui avait dit avoir besoin de temps pour réfléchir. « C'est pas que je t'aime pas, Clémence, au contraire, je t'aime trop pour que tu subisses des commentaires constants tout au long de notre vie commune. J'ai vu ce que cette situation a fait à mes parents. À la mort de mon père, ils se parlaient presque plus. « Arrête ça !» avait pleuré la jeune femme. « Je suis faite bien plus forte que tu le penses. C'est pas deux ou trois mégères qui vont m'empêcher d'être heureuse. » Mais le mal était fait. Alors, Clémence avait promis à son prétendant de lui laisser jusqu'à la fin du mois d'août pour évaluer l'importance de leur relation. Sylvestre avait eu beau lui dire qu'elle ne comprenait pas, la femme s'était entêtée. « Si tu m'aimais comme je t'aime !» avait-elle lancé tristement au moment de le quitter. « Rien d'autre t'importerait. Je me battrais pour toi jusqu'à la fin de ma vie. » Malgré ces paroles, Clémence aussi éprouvait certaines craintes, même si elle ne les mentionnait jamais à Sylvestre. Se pouvait-il que leur couple ne soit jamais accepté? Que les enfants qu'ils auraient subissent autant de préjugés, même à Rimouski? Lorsque les doutes se faufilaient dans son esprit, Clémence s'empressait de les chasser. « C'est pas vrai que j'ai enduré tout ça depuis notre rencontre pour baisser les bras », songeait la jeune femme. Pendant un mois, elle avait respecté le choix de Sylvestre et n'avait pas cherché à le contacter. Soir après soir, elle s'endormait après avoir adressé une prière à la Vierge, la suppliant de faire réaliser à Sylvestre à quel point ils étaient faits l'un pour l'autre. Au matin du 23 août, n'y tenant plus, Clémence quitta son logement, une heure plus tôt que d'habitude. « Il doit s'ennuyer autant que moi », songea-t-elle, le cœur en émoi. Déterminée, elle sauta dans le bain et se parfuma légèrement avant d'enfiler son uniforme blanc. Regrettant de ne pouvoir se vêtir plus coquettement, Clémence ne lésina pas sur la poudre pour ses paupières et ses pommettes. Elle glissa ses pieds dans ses chaussures lacées à quatre œillets, mit son chapeau toque sur sa tête bien coiffée et s'éclipsa par le côté de la maison du docteur Marien, son propriétaire. « Heureusement qu'il m'a plus questionné sur Sylvestre », pensa la jeune femme en jetant un coup d'œil vers les fenêtres de la maison. « Si le docteur Marien se mêle encore de mes affaires, je vais déménager. J'ai déjà bien assez de Jacqueline et de ses préjugés. Le plus simple, dans le fond, c'est qu'on se marie le plus vite possible. Comme ça, on pourra se trouver un petit logement juste pour nous deux. » Emballée par ses projets futurs, Clémence se mit à imaginer le plaisir qu'aurait sûrement Sylvestre en la voyant ce matin. Elle accéléra le pas, le cœur battant à tout rompre à l'idée de revoir enfin son amoureux. La marche entre son appartement et l'imprimerie Vachon, située sur la rue Saint-Germain, où l'homme travaillait, ne prenait qu'une quinzaine de minutes. La température était fraîche en ce vendredi matin de la fin de l'été, et Clémence regretta de ne pas avoir enfilé sa veste par-dessus son uniforme. « Tant pis, j'aurai les joues encore plus rouges que d'habitude », songea-t-elle en arrivant devant la porte du journal « Le progrès du golf ». Tout à coup embêtée, Clémence resta plantée sur le trottoir de bois, ne sachant quelle attitude adopter. Entrer sans cogner et demander à voir l'imprimeur qui devait terminer son quart de nuit sous peu, ou attendre devant l'édifice que Sylvestre sorte. Après quelques minutes d'incertitude, Clémence prit sa décision. Elle grimpa les marches de l'édifice de bardeaux gris et poussa la porte pour pénétrer dans l'imprimerie. Derrière un comptoir encombré de papiers, un homme portant de petites lunettes rondes était occupé à écrire. Il releva la tête lorsque la visiteuse arriva devant lui. « Mademoiselle ?» questionna-t-il avec surprise. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« Bonjour, Monsieur Henri. C'est bien ça ?» Encore plus étonné, l'employeur de Sylvestre déposa son crayon et fixa la jeune femme. Il était bien tel que le lui avait décrit son amoureux, mesurant à peine 5 pieds, des cheveux bruns hirsutes et un regard vif. Il hocha la tête et sortit de derrière le comptoir pour s'avancer près de la jeune femme. « J'aimerais voir votre employé, Sylvestre Ballant. Est-ce que ce serait possible ?» lança gentiment Clémence en cachant son malaise derrière un léger sourire. Monsieur Henri changea aussitôt d'attitude. Il haussa les sourcils avant de se détourner sèchement. Puis il répondit d'un ton qui n'appelait aucune réplique. « Ce voyou a quitté l'imprimerie sans même m'en aviser, du jour au lendemain à la fin juillet. Je ne sais pas où il est rendu, mais si vous le voyez, faites-lui savoir que son poste a été donné à un bon Canadien français. Ça m'apprendra à vouloir être un généreux chrétien. J'aurais dû écouter ma famille et mes amis. On ne peut pas faire confiance à ces étrangers. » Au moment où le monde de Clémence s'écroulait, des coups frappés violemment à la porte de la Maison Blanche de Simone et Tom résonnèrent dans toutes les pièces. Horace s'était couché tôt après le souper, après s'être relevé du sofa péniblement, peinant à se tenir droit. La souffrance occasionnée par des maux de dos récurrents se lisait sur ses traits, même lorsqu'il tentait de la cacher. « Si t'as pas besoin de moi, » avait clamé le sexagénaire à son fils, « je vais me coucher de bonne heure, j'ai les reins en compote ces temps-ci. » Tom avait prévu ressortir à la noirceur pour aller attraper des squids avec d'autres villageois. La pêche à la morue leur demandait une quantité impressionnante d'appâts, et les hommes se retrouvaient souvent après le souper pour installer les sennes près du rivage ou lancer des lignes garnies de turlutes. L'homme avait regardé son père se diriger lentement vers sa chambre au bout du couloir avec un petit pincement au cœur. Horace avait toujours été costaud et enjoué. Cependant, depuis quelques années, cette douleur dans le bas de sa colonne l'empêchait de dormir confortablement. « Repose-toi, papa », avait soufflé son fils. « Émile va m'accompagner, c'est bien correct. » Tom constatait aussi que la mort d'Éloi n'avait pas seulement ravagé sa femme et lui. Même si Horace n'en avait jamais parlé ouvertement, le grand blond l'avait surpris quelquefois, les yeux fixés sur une feuille où le garçon avait pratiqué maladroitement l'écriture de son prénom, sous les bons conseils de sa grande sœur. Un soir, Tom avait voulu jeter le papier au feu, mais son père l'avait arrêté d'une poigne solide sur son avant-bras. « Non! Ça, c'est un cadeau que mon petit-fils m'a fait. C'est tout ce qui me reste de lui. Je respecte que tu veuilles pas de souvenirs qui te rappellent ton enfant, mais ce bout de papier m'appartient. » Tom l'avait longuement regardé dans les yeux avant d'abdiquer. Après tout, ça ne restait qu'un barbouillage innocent. Quand l'homme observait à quel point son père avait vieilli dans la dernière année, sa rage envers Madeleine augmentait encore. Elle avait détruit tant de monde avec son inconscience. Il était donc sorti pour rejoindre Émile sur la plage. Et s'était promis de mieux prendre soin de son paternel. Simone avait couché les filles et s'était installée pour tricoter un peu dans le salon. Mais la longue journée de cette fin d'été passée sur la grave à tourner les morues avait eu raison d'elle, et en moins de 10 minutes, la femme était tombée endormie, à moitié allongée sur le divan défraîchi. Elle sursauta donc en entendant cogner ainsi. Sa première réaction fut qu'un nouveau malheur venait de frapper leur famille. « Tom! » cria-t-elle en se levant rapidement. Mais en ouvrant la porte, quelle ne fut pas sa surprise de voir Homer, le mari de Géraldine, debout sur le perron. L'homme se tenait maladroitement au chambranle de bois et éructa dans sa main avant de grommeler « Ma femme aurait besoin de toi, Simone. » « Comment ça? Puis t'es encore sous? » « Pas vraiment, j'ai juste bu un petit verre. » Mais la bouche pâteuse et le regard aviné de l'homme témoignaient de son état d'ivresse. Il fit un signe de la main et cracha « Le bébé arrive, ça a l'air. » C'était pas prévu pour la fin septembre? Homer haussa les épaules et se retourna pour descendre les marches. Simone grimaça en sentant l'odeur âcre qui émanait du corps de l'homme. Se hâtant dehors à sa suite, elle cria « Attends un peu, Homer Veillette, es-tu allé chercher Joséphine au moins? » Le Soulon ne répondit pas, mais il arrêta de marcher. Dos à Simone, il valsait sur ses jambes, et elle crut qu'il allait s'effondrer. « Un petit verre, mon œil !» pensa-t-elle avant de descendre les marches pour le rejoindre. Homer évitait de regarder directement l'ami de sa femme. Ses joues étaient marquées par les cicatrices d'acné, dont son visage avait été couvert tout au long de sa jeunesse. « Joséphine !» répéta-t-elle en le fixant sévèrement. « C'est elle, la sage-femme, pas moi ?» Homer hocha la tête sans répondre. Enfouissant les mains dans les poches de son pantalon usé, il marmonna « C'est juste qu'on n'a pas l'argent pour des affaires de même. » « Voyons donc, pas l'argent. Me semble qu'il n'y a pas plus urgent qu'une affaire de même, comme tu dis. » Fâchée, Simone donna un coup sur l'épaule du mari de Géraldine pour le faire réagir. Mais elle ne réussit qu'à le faire trébucher. De plus en plus enragée, elle attendit la réponse de l'homme qui ne tarda guère.
C'est parce que la Joséphine a dit que si je payais pas pour l'autre d'avant, bien Géraldine devrait s'arranger toute seule. C'est bien écœurant, hein?
Simone inspira pour calmer sa fureur. Elle avait envie de crier par la tête de l'ivrogne que c'était lui l'écœurant.
Elle va y aller quand même, t'as juste à aller la chercher. Joséphine laisse pas tomber les femmes,
riposta-t-elle en resserrant sa veste sur son corps. Omer expliqua qu'elle habitait trop loin et que Géraldine avait besoin d'aide tout de suite. Il ne mentionna pas le fait qu'il n'avait payé qu'un seul accouchement, celui des jumeaux, et que s'il allait chercher la sage-femme, sa dette grossirait encore. Comprenant que son amie était restée seule chez elle dans les douleurs de l'enfantement, Simone lança « Là, va rejoindre ta femme, je vais aller réveiller Horace pour l'avertir que je m'en vais. Puis va-t'en directement chez vous, Omer Veillette, t'as bien compris? »
L'homme recommença à marcher en chancelant, tout en grommelant à voix basse. Simone sauta lestement sur son balcon, malgré son léger embonpoint, et courut frapper à la porte de la chambre de son beau-père. Elle le mit rapidement au courant de la situation et sortit de la maison sans plus attendre. Elle aurait bien aimé pouvoir compter sur la présence de Madeleine. Le calme de sa jumelle avait toujours eu un effet pacificateur dans des moments aussi intenses. Mais même si l'envie d'être accompagnée par sa sœur l'étreignait, Simone se dirigea vers l'autre bout du village, sans agir à propos de cette impulsion. La nuit était noire et la lune, un mince croissant qui éclairait à peine la route. La femme craignait un peu les bêtes qui profitaient parfois de la noirceur pour sortir de la forêt. Si j'avais pris une lampe, j'aurais moins peur de rencontrer un ours ou une moufette, s'inquiéta Simone en trébuchant pour la deuxième fois. Elle souleva sa jupe qui obstruait ses enjambées et accéléra tout de même le pas. Au loin, elle entendait Omer jurer et conclut que l'homme éprouvait quelques difficultés lui aussi à éviter les trous dans le chemin de terre. En bas, au village, certaines fenêtres étaient encore éclairées, tout comme la plage, où des hommes travaillaient sans relâche pour amener la bouette pour la pêche du lendemain. Quand, au bout d'une vingtaine de minutes, Simone arriva enfin devant la maisonnette de Géraldine, elle fut surprise de voir Gustave ouvrir la porte en vitesse, lampe à l'huile à la main. Quelques pas derrière lui se trouvait son jumeau François, qui portait le plus jeune de leurs frères, Auguste, dans ses bras maigrelets.
« Entre !» hurla le petit garçon. « Vite, ma tante Simone, maman, arrête pas de crier, je sais plus quoi faire, moi, son ventre va mal, très mal !»
Sans attendre, Simone rejoignit les enfants dans la maison. François déposa Auguste sur le sol et il se tordit les mains sans parler. Plus chétif que Gustave, le garçon lui lança un regard rempli d'inquiétude. Il n'était pas habituel d'expliquer aux enfants les circonstances d'une grossesse et d'une naissance. Le mystère qui régnait autour de l'arrivée d'un nouveau bébé dans une famille intriguait les plus jeunes. Malgré la panique des jumeaux, la femme n'avait pas le temps de s'attarder aux détails du malaise qui affligeait leur mère. En entendant les plaintes de la parturiente, Simone ne put s'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Et si l'accouchement ne se déroulait pas normalement? Omer était allé s'effondrer sur une chaise bancale au fond du jardin, près d'une cabane au toit défoncé. Il n'attendait que de pouvoir fouiller sous son établi et sortir sa bouteille de bagosse. Découragée d'être seule pour gérer la situation, Simone comprit qu'elle n'avait plus le choix. Il lui fallait de l'aide. « Gustave, mon garçon, j'ai un service à te demander. » Simone s'accroupit et posa ses mains sur les épaules dénudées du bambin, qui ne portait qu'un pantalon de pyjama. Ce dernier leva ses beaux yeux bruns sur le visage soucieux de la femme. « Pourrais-tu sauter sur ton bicycle et aller chercher ma sœur Maddie?
Ta jumelle?
Oui. »
« Mais tu lui parles plus à elle, maman dit que c'est de sa faute si... »
Simone mit sa main tremblante sur la bouche du gamin pour le faire taire. Puis elle tenta de sourire.
« Chut! Là, c'est pas important. Il faut qu'on aide ta maman et je peux pas tout faire seule.
Tu sais où elle habite, Madeleine? »
« Ben oui, franchement, dans la maison bleue. Mais mon bicycle va pas très vite, par exemple, » précisa l'enfant, assez craintif de partir seul dans la nuit.
La femme plongea ses yeux sur le visage indécis. « Je te demanderai pas ça si c'était pas important pour ta mère, Gustave. » Le garçon jeta un coup d'œil à travers la fenêtre, déglutit et hocha sa tête. Simone lui caressa la joue avant de chuchoter « Fais le plus rapidement possible. J'ai confiance. »
Même s'il était inquiet d'aller se promener sur le chemin à la tombée de la nuit, Gustave dit à son jumeau d'un ton affirmé « Je te laisse en charge, François ». Simone fit un sourire furtif, puis compléta « Va porter les petits chez la mère Constance à côté, mon garçon. Dis-lui qu'on va aller les chercher quand tout va être fini. » Gustave tendit la lampe à Simone et courut chercher sa vieille bicyclette dans l'herbe près de la maison, sans voir le regard désespéré de son jumeau. François n'arriverait pas à tout expliquer à la voisine. Il leva la main pour apostropher son frère, mais Gustave n'en avait que pour Simone. « Je me dépêche, c'est promis, ma tante. » Il s'éloigna dans la nuit sombre en pédalant de toutes ses forces, en évitant de regarder les formes étranges que faisaient les arbres tout autour de lui. François dut se résigner à retourner à l'intérieur pour aller chercher Martial. Il fit signe à son frère de 6 ans, Félix Edmond, de l'accompagner. « Tu diras à la mère Constance. » Madeleine s'apprêtait à se mettre au lit quand de petits coups se firent entendre à la porte avant. Freddy était déjà couché, tout comme Palmyre. Depuis la veille, son mari faisait de la fièvre et il avait dû se résigner à se reposer. La femme sut tout de suite que quelque chose n'allait pas en voyant le garçon de Géraldine sur son balcon. « Qu'est-ce que tu fais là, toi? » demanda-t-elle en resserrant sa robe de chambre sur son gros ventre. « C'est ta sœur qui m'a demandé de venir te chercher. » L'enfant se tenait les jambes bien écartées, le visage levé d'une manière effrontée. « Il faut que tu viennes chez nous parce que ma mère a mal au ventre. Ma tante Simone dit qu'elle peut pas tout faire seule. C'est pour ça qu'elle veut que tu viennes, même si vous êtes en très grosse chicane. » La femme referma la porte pour sortir sur son balcon, en tiquant sur le fait que l'enfant appelait sa sœur « ma tante ». Elle eut envie de brasser Gustave pour lui faire avaler ses paroles. « C'est mon Arthur qui est supposé l'appeler de même, pas toi !» songea Madeleine. Mais l'urgence qu'elle sentit dans la voix de l'enfant l'empêcha de commenter. De toute manière, ce n'était pas la faute de Gustave si sa sœur ne connaissait pas son fils. Comprenant que le bébé de Géraldine arriverait sous peu, elle se demanda pourquoi Simone l'avait envoyé chercher. La sage-femme habitait bien plus près de chez Géraldine qu'elle. En plus, la grande blonde la détestait depuis la mort des lois. Fronçant les sourcils, elle allait questionner l'enfant un peu plus quand ce dernier sauta en bas du balcon. « En tout cas, faudrait que t'ailles plus vite que ça parce que je veux pas que ma mère meure comme Éloi. » Avant que Madeleine ne réagisse, le gamin avait enfourché sa bicyclette pour s'éclipser en pédalant de toutes ses forces. La femme hésita quelques secondes avant de prendre sa décision. « Tu parles d'un insolent. Bon, je vais y aller. » Au pire, Géraldine va me retourner de bord assez vite si son gars s'est trompé. Même chose pour Simone. Je dois être la dernière personne qu'elle a envie de voir. Mais au fond de son cœur, malgré l'inquiétude qui l'envahissait, Madeleine sentit l'espoir l'envahir. Si Simone m'a fait chercher pour vrai, elle commence sûrement à me pardonner, songea-t-elle en allant quérir la lampe qu'elle s'apprêtait à éteindre sur la table de la cuisine. Sans hésitation, Madeleine monta dans sa chambre pour se changer et laissa une petite note sur la table de la cuisine à l'intention de son mari. Puis elle se mit en route sur le chemin de terre en inspirant l'air frais de cette fin d'été pour se calmer un peu. « Je vais passer du temps auprès de ma sœur adorée », lança-t-elle vers le ciel en riant toute seule. Dans la chambre mal aérée de Géraldine, la femme soufflait et se lamentait sans arrêt. « Maudit que j'aille ça! Ah! » Dès son entrée dans la pièce, Simone comprit que la naissance du prochain bébé de son amie était bien enclenchée. Elle voyait le ventre énorme de Géraldine se durcir au rythme des contractions rapprochées. « Trop rapprochées !» pensa-t-elle, soucieuse. Elle n'était pas prête à accueillir un nouveau-né dans cette pièce sombre et insalubre. Mettant une main rassurante sur le front de Géraldine, elle affirma avec chaleur « Sois forte, mon amie, je vais être là tout le long. » La sage « Oh! Femme arrive quand? Bientôt, j'imagine. » Peu désireuse d'expliquer à Géraldine qu'elle mettrait au monde son 6e enfant accompagné par les jumelles Gérard seulement, Simone se détourna. « Je vais chercher de l'eau et des guenilles. Tu les mets où? »«
En dessous du comptoir. Oh! » souffla Géraldine. « Maudit que ça fait mal! Demande à Homer, il peut bien se rendre utile un peu. »
Se retenant pour riposter que son incapable de mari cuvait son vin dans le fond du champ, Simone s'avança vers la cuisine. Assis sur le divan défoncé, François et Félix Edmond la suivaient des yeux avec un regard apeuré. Sachant qu'elle devrait prendre le temps de les rassurer, la femme s'avança devant eux et s'accroupit à leur hauteur. « Tout va bien aller, les garçons. Allez vous coucher. Votre frère va revenir bientôt et il ira vous rejoindre. »«
Non !» clama Gustave qui mettait les pieds dans la maison au même moment. « Moi, je veille. Je vais pas dormir. Papa est trop malade pour aider maman si quelque chose de grave arrive. »
Simone crispa sa bouche pour éviter une réplique cinglante. Devant le regard sérieux de l'enfant, elle leva une main résignée. « Écoute, Gustave. »«
Oh, puis laisse faire. »
Simone connaissait assez le gamin à présent pour savoir qu'il aurait une riposte prête pour chacun de ses arguments. Elle préféra laisser tomber et alla vers le petit comptoir encombré.
« As-tu trouvé ma sœur ? »
s'informa-t-elle en promenant ses yeux un peu partout.
« Oui, elle s'en vient. »
La femme hocha la tête puis remercia l'enfant. Ensuite, elle lui ordonna « Va me chercher de l'eau d'abord si tu veux te rendre utile. » Elle tendit une chaudière de métal à Gustave qui courut à l'extérieur. François le suivit comme si un lien invisible les unissait. Quant à Félix Edmond, il ne bougea pas, assis au fond du divan. Lampe à la main, Simone maugréa en essayant de trouver des linges propres. Des vêtements sales s'empilaient près du mur de la cuisine, et elle eut beau fouiller partout, elle ne trouva rien d'autre qu'une vieille chemise de denim qu'elle décida de déchirer. « Tant pis, mon Homer, t'avais juste à payer tes dûs à la sage-femme. » Quand Madeleine arriva sur le rang La Joie, où habitait la famille Veillette, elle était à bout de souffle. La femme réalisa qu'elle n'avait même pas pensé aux ours et aux renards pendant sa marche. Freddy serait bien fâché de savoir qu'elle s'était éloignée ainsi sans prendre soin de leur futur enfant. Surtout pour Géraldine, qui l'avait bannie de son existence et humiliée à répétition depuis la mort d'Éloi. Mais elle ne le faisait pas pour cette dernière. Toute sa vie, la jeune femme avait accouru lorsque sa jumelle l'avait appelée. Les sœurs avaient toujours été là l'une pour l'autre. Avant le 15 juin 1934, bien sûr. Portant les mains à son ventre, Madeleine tenta de calmer ses appréhensions, ses yeux noisettes fixés sur la faible lueur qu'elle apercevait à travers la fenêtre de la maison de Géraldine. Elle aurait préféré que Gustave l'attende sur le balcon. Replaçant son chandail sur son corps, la femme prit son courage à deux mains et fonça vers la masure. « Au pire, j'aurais fait une marche de santé en pleine nuit. » ironisa-t-elle en cognant. Elle n'attendit même pas une minute que la porte s'ouvrait, et Gustave la fit entrer. « Écoute, la jumelle, tu vois bien que maman a mal au ventre. J'espère que tu sais quoi faire parce que ma tante Simone l'a pas guérie. » s'exclama-t-il en pointant le fond de la maison. Sans plus attendre et n'ayant plus de doute sur l'état de Géraldine, Madeleine marcha dans le couloir et dépassa la chambre des enfants pour atteindre celle de la parturiente. Par la porte entrouverte, elle vit Simone assise près de leur amie, qui l'encourageait doucement. Toute agressivité avait disparu de son ton, et Madeleine se rappela à quel point sa sœur avait été une soignante attentionnée tout au long de leur enfance. Quand elle était tombée de la clôture lorsqu'elle avait 9 ans, Simone avait utilisé le foulard dans ses cheveux pour l'enrouler autour du genou ensanglanté de sa jumelle. Une autre fois, alors que Madeleine avait reçu le ballon d'un enfant sur le front, elle l'avait obligé à se coucher dans son lit et lui avait placé un linge mouillé sur la tête. Même si leur mère Carmel avait déclaré que Madeleine n'était pas blessée sérieusement, Simone avait répliqué « On sait jamais ce qu'il y a en dessous de la peau, maman. » Alors, dans les mots tendres que Simone chuchotait à la femme sur le point d'accoucher, Madeleine perçut tous ceux qu'elle aurait voulu entendre lors de la naissance d'Arthur. Un cri se formait au creux de sa gorge et la jeune femme dut retrouver la maîtrise de ses émotions avant de pouvoir s'annoncer. « Simone, je suis arrivée. »